même si c'est une année qui se réalise dans la lutte, soit une année totalement offerte au Seigneur. Le Saint-Père disait récemment, vous le savez, à des jeunes en Allemagne qui lui demandaient pourquoi les papes n'avaient pas révélé le troisième secret de Fatima. Et le Saint-Père a dit, il y a des choses qu'il vaut mieux garder dans le silence. Étant donné que notre curiosité humaine voudrait toujours comprendre le futur, et que lorsque ce futur se présente à nous d'une manière particulièrement dramatique, notre imagination risque de s'arrêter aux choses extérieures. Et le Saint-Père souligne ces événements annoncés à Fatima sont sans doute tout proches. Nous n'avons qu'une seule arme, le chapelet. Nous ne pouvons plus rien par rapport aux événements qui sont en train d'aller de plus en plus vite, mais par la prière, nous pouvons toujours faire que ces événements soit enveloppé d'une miséricorde divine plus grande. Mais c'est assez net, ces paroles du Saint-Père. Et c'est assez bouleversant. Je crois qu'on doit les recevoir d'une façon filiale. On le sait bien, du reste, il suffit tout simplement de regarder avec un peu d'intelligence ce qui se passe autour de nous, pour s'apercevoir que la tension augmente toujours plus et que nous savons qu'humainement, il n'y a pas d'issue. Il faut donc se remettre de plus en plus à cette volonté du Père, qui est une volonté de sanctification. La Vierge Marie à Bernadette a dit qu'elle ne lui promettait pas les joies sur la terre, mais qu'elle lui donnait la grâce pour lutter. Et que c'était la joie du ciel qu'elle lui promettait. Et je crois que lorsque nous sommes en présence d'événements comme ils se présentent à nous, où la violence se déchaîne d'une manière si forte, il n'y a plus, pour le chrétien, pour l'homme qui ne croit pas, c'est rude. Pour l'homme qui croit, ça reste rude, mais il y a l'espérance. Et l'espérance de cette miséricorde de Dieu sur nous. Je n'insiste pas plus, nous allons aujourd'hui regarder un sujet qui, vous le comprenez bien, me tient particulièrement à cœur. J'allais dire, je le vis chaque jour, vivant avec des jeunes qui se donnent à Dieu. Des jeunes gens et des jeunes filles, des religieux et des religieuses, des vocations sacerdotales. Je crois que c'est un sujet qui tient tellement à cœur au souverain pontife que nous devons être particulièrement attentifs. Il a toujours été le sujet principal de l'Église. Puisque si nous regardons l'Évangile, surtout l'Évangile de Saint Jean, nous voyons que la vie apostolique de Jésus commence par le grand mystère de la vocation. La vocation de Jean, d'André, de Simon-Pierre, de Philippe, de Nathanaël. Et j'aime beaucoup ce lieu de l'évangile de Saint Jean parce qu'il nous montre la théologie de la vocation. La vocation, suivre l'agneau partout où il va. Et cette vocation, elle est commune pour celui qui fonde un foyer, pour celui qui veut se donner ou celle, qui veut se donner totalement au Christ. Dans la vie religieuse ou le sacerdoce. C'est très important de comprendre que la vocation chrétienne est la même pour tous. Il n'y a pas deux vocations chrétiennes. Il n'y a qu'une seule vocation chrétienne. Autrement, nous ne pourrions pas comprendre comment la famille est le lieu privilégié de l'éclosion de la vocation. Si la famille était tout autre, si la vocation chrétienne n'avait pas cette unité profonde, nous ne pourrions pas comprendre comment Dieu, dans sa sagesse, a voulu que la plupart du temps, et je dirais normalement, les éclosions des vocations se font dans la famille. Je dis normalement, parce que quand on vit ce que nous vivons, quand on regarde le point de départ de l'Église, le terme que nous vivons maintenant, on voit ce qu'on appelle des vocations tardives, on voit des vocations qui naissent par des retours merveilleux et étonnants vers le Christ, en dehors de la famille. La famille n'a pas du tout été le milieu de ces éclosions. Parce que beaucoup de familles ne sont plus suffisamment chrétiennes pour comprendre cela. Et alors la famille devient quelquefois le lieu de l'opposition de la vocation. C'est normal. Si elle n'accepte pas d'être le milieu de la vocation, elle va s'opposer aux vocations. On comprend au point de vue strictement humain. La vocation étant un dépassement de ce que représente la famille, un dépassement divin, surnaturel, on comprend très bien qu'au niveau purement humain, psychologique et sociologique, la vocation n'est pas la continuité de la famille. La vocation religieuse ou la vocation sacerdotale, c'est comme un arrêt. Normalement, une famille est source d'une autre famille. J'allais dire, ça, c'est normal, au point de vue humain, au niveau psychologique et sociologique. C'est normal. Tandis que la vocation, comme elle est un dépassement de la famille, elle n'est pas le point de départ d'une nouvelle famille. Et donc c'est un arrêt. C'est la famille qui s'achève. C'est la famille qui connaît à ce moment son épanouissement ultime, son épanouissement dernier. La famille chrétienne est pour l'éclosion des vocations. Ça se fait plus ou moins vite. Je me souviens de la réflexion d'une de mes tantes qui était prieure du Carmel de Lille et qui disait à la fin de sa vie, « Je m'aperçois de plus en plus qu'une vocation de carmélite, normalement, présuppose plusieurs générations chrétiennes. » Je ne sais pas ce qu'elle dirait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit de ces vocations de carmélites qui naissent comme ça spontanément. Mais si on regarde bien, on voit que c'est vrai, qu'il y a plusieurs générations qui préparent. Dieu saute quelquefois une génération pour préparer plus profondément quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que quand je dis que la vocation achève et termine et donne au foyer chrétien sa signification ultime et dernière, comprenons bien que ça ne se fait pas nécessairement pour tous les foyers chrétiens. Ce serait souhaitable, évidemment, que tous les foyers chrétiens aient un prêtre, une religieuse. Mais ça ne se commande pas. Et Dieu, quelquefois, demande aux parents d'avoir le désir, sans l'exprimer, comme nous le verrons tout à l'heure, pour l'offrir. Et ce désir est écouté de Dieu. Et ce désir, Dieu le reçoit. Dieu regarde les intentions profondes des cœurs plus que les résultats. Il ne faut jamais l'oublier. Il peut y avoir des foyers qui ont aspiré profondément aux vocations d'avoir un fils ou une fille qui se donne au Seigneur et qu'il n'y a pas eu de réponse. Et au bout de plusieurs générations, il y aura la réponse. Et personne ne s'en apercevra, sauf Dieu, sauf la Vierge Marie. Alors essayons de comprendre d'abord, parce que je crois ceci très important, que le sacrement de mariage implique dans sa structure propre un ordre vers la vocation sacerdotale et la vocation religieuse. Autrement dit, est inscrit dans le cœur d'un père et d'une mère qui vivent de la grâce du sacrement de mariage, est inscrit un appel vers le dépassement de ce que représente la famille chrétienne, la famille humaine. Parce que la grâce du sacrement de mariage relie l'époux et l'épouse directement au Christ crucifié. C'est Jésus qui donne aux époux la grâce du sacrement de mariage. C'est pas les époux qui se la donnent, hein. C'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui est source de tous les sacrements. Il n'y a pas d'exception. Même du sacrement de mariage. Autrement, il n'y aurait plus de sacrement. C'est Jésus qui donne sa grâce. Et c'est Jésus dans le mystère de la croix. Et c'est très étonnant quand on étudie théologiquement ce que représente la grâce du sacrement de mariage. C'est très net. Et toute la tradition de l'Église est là pour l'affirmer. C'est que le sacrement de mariage unit les époux dans le mystère du Christ crucifié. Puisque c'est à la croix où Jésus épouse l'Église et que le sacrement de mariage fait que l'alliance de l'époux et de l'épouse, du Christ avec l'Église, du Christ avec chacun d'entre nous, nous sommes tous liés avec le Christ par la grâce, dans un lien d'époux et d'épouse, au sens le plus divin, au sens le plus mystique, le plus intérieur, au sens de l'amour divin. Et ce lien de l'époux et de l'épouse est manifesté par le sacrement de mariage, et non seulement manifesté symboliquement, mais réalisé aussi. Puisque la grâce chrétienne est une grâce incarnée, est une grâce qui prend possession de tout notre corps, de toute notre sensibilité, puisque notre corps, un jour, connaîtra la gloire. Et la gloire provient de la grâce. Et donc notre corps n'est pas extérieur à la grâce chrétienne. Notre corps est saisi par la grâce chrétienne. Notre corps dans tout ce qu'il a de plus sensible. Notre corps dans toutes ses capacités d'aimer est saisi par la grâce chrétienne pour être le lieu de l'incarnation. Pour chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais nous savons très bien que cela se fait à travers les luttes et les purifications, puisque notre sensibilité n'est pas immédiatement purifiée. Il y a toutes les conséquences du péché. Et parmi les conséquences du péché, nous savons bien qu'il y a cette propension vers les biens sensibles immédiats. Et nous sommes orientés vers ces biens sensibles immédiats d'une manière désordonnée. Et la grâce chrétienne est là pour nous purifier, pour permettre de redécouvrir une harmonie beaucoup plus profonde du spirituel et du sensible. Une unité dans le cœur du Christ et dans le cœur de Marie, entre ce qu'il y a en nous de plus spirituel et de plus sensible. C'est le propre de la grâce chrétienne, cela. Et cette grâce chrétienne, dans la grâce du mariage, va de fait se manifester de la manière la plus forte, puisque c'est la grâce du sacrement de mariage qui fait que toute la pâte humaine, toute notre sensibilité dans ce qu'elle a de plus fort, de plus intime, de plus vulnérable, est transformée par cette grâce. C'est l'amour des conjoints, de l'époux et de l'épouse, qui doit être transformé par la grâce chrétienne. Et transformé à travers toutes les passions. Les passions doivent demeurer, mais elles doivent être sanctifiées, elles doivent être purifiées. L'homme, dans ce qu'il a de plus homme, et la femme, dans ce qu'elle a de plus femme, dans toute la sensibilité de son cœur, de son corps, doit être transformée par la grâce et purifiée par la grâce. C'est pour ça que la grâce du sacrement de mariage, c'est là où nous voyons de la manière la plus nette la victoire de l'amour divin sur les concupiscences charnelles. C'est là où nous voyons de la manière la plus nette comment la grâce chrétienne réclame cette incarnation et qu'elle doit assumer tout le corps. Le sacrement de mariage unit donc les époux au Christ crucifié. Le sacrement de mariage unit les époux à l'Église, dans son lien d'époux et d'épouse au Christ. Et c'est pour cela que la grâce du sacrement de mariage implique un ordre vers une tendance, une inclination, vers le mystère le plus profond de l'Église, qui est cette alliance d'épouse avec Jésus comme époux. Et c'est cette grâce qui va nous faire comprendre le lien qui existe entre le foyer chrétien et la vocation. Si nous ne voyons pas cela, la vocation apparaîtra toujours à l'intérieur du foyer comme une chose anormale. Alors que la vocation à l'intérieur du foyer chrétien est une chose normale. Elle est divine, mais elle est selon l'ordre de la sagesse de Dieu. Parce que selon l'ordre de la sagesse de Dieu, la grâce du sacrement de mariage unit les époux au Christ crucifié, et donc fait vivre aux époux, à travers leur amour, ce lien divin du Christ avec l'Église, dans cette alliance de l'époux et de l'épouse. La vocation. Je prends la vocation chrétienne de la vie religieuse. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Suivre l'agneau partout où il va. Suivre Jésus de la manière la plus proche possible. Se mettre dans une situation, dans une disposition telle qu'on est capable de tout abandonner pour que notre cœur soit plus immédiatement saisi par le Christ. La vocation chrétienne, religieuse, c'est suivre l'agneau partout où il va, c'est la même vocation pour tous. La seule différence, c'est au point de vue des moyens. C'est la même sainteté poursuivie par un religieux et par sa mère et son père. Et c'est pour ça que le religieux peut continuer de parler à son père et à sa mère, et il continue de parler le même langage, le langage chrétien, avec la seule différence, c'est que le religieux ou la religieuse prend des moyens plus directs. Je ne dirais pas que c'est la différence entre une petite route de montagne et l'autoroute, parce que l'autoroute, ce n'est pas précisément chrétien, n'est-ce pas ? Mais c'est plutôt la différence entre un petit sentier très raide, très rapide, difficile à monter, c'est sûr, et puis une route un peu plus normale, moins rapide. C'est un exemple, hein, et donc c'est toujours faux. Mais c'est comme, un peu comme ça. La vie religieuse consiste à élaguer le plus possible. Jésus le dit très nettement. Celui qui veut le suivre doit nécessairement tout abandonner. Celui qui veut le suivre de la manière la plus immédiate, « suis-moi », n'a pas à regarder en arrière et doit abandonner tout ce qui est en arrière. Ce qui était pour lui peut-être des moyens tout à fait normaux dans sa vie chrétienne demande d'être laissé de côté. C'est une question de prudence éclairée par la foi et sous l'emprise du don de conseil. Il n'y a pas de vocation religieuse sans une mission particulière de l'Esprit-Saint, nous dit saint Thomas. Il n'y a pas de vocation religieuse sans une mission particulière du Saint-Esprit. Dans le cœur du jeune homme et de la jeune fille, dans le cœur de l'enfant, c'est l'Esprit-Saint qui est l'auteur principal de toute vocation. Ce n'est pas une question psychologique. C'est pour ça que le psychologue ne peut pas saisir s'il y a vocation ou pas vocation. Il peut simplement saisir s'il y a des contradictions à vivre une vie commune, à vivre tel genre de vie, en disant, étant donné votre tempérament, étant donné votre psychisme, il est impossible pour vous de vous engager dans telle voie. Comme on pourrait, par rapport à une orientation artistique, une orientation intellectuelle, ou une orientation où il y a de grosses responsabilités, dire non, étant donné votre tempérament, c'est impossible. Mais ce n'est pas le psychologue qui peut dire s'il y a vocation ou pas. Puisque c'est l'œuvre directe du Saint-Esprit. Toute vocation religieuse implique une mission de l'Esprit-Saint dans le cœur de l'enfant, dans le cœur du jeune homme, dans le cœur du converti, une mission du Saint-Esprit. Donc, le seul qui peut vraiment en témoigner, c'est celui qui l'a reçu. Alors, je ne vais pas faire avec vous ici les critères d'une véritable vocation religieuse. C'est du reste très difficile. C'est pas commode du tout. Constamment, on me dit « Quels sont vos critères ?» Ça m'amuse beaucoup. Je leur dis, je regarde chaque vocation particulière et plus j'avance, plus je vois que chaque vocation est personnelle. Parce que toute vocation religieuse est personnelle. Et donc, le lien profond est toujours souterrain. C'est un lien que l'Esprit Saint lui-même réalise. Alors évidemment, il y a des notes communes, c'est bien évident. Mais c'est toujours quelque chose de personnel. La vocation d'André, la vocation de Jean, la vocation de Simon-Pierre, c'est pas la même chose. C'est différent. Et c'est pour ça qu'il faut souvent relire ce passage-là. Si, de fait, il y a un lien essentiel entre la grâce du sacrement de mariage et la vocation religieuse, puisque le sacrement de mariage et la vocation religieuse sont unis dans l'alliance nouvelle du Christ avec l'Église comme époux et épouse. Je peux dire aussi que le sacrement de mariage a un lien essentiel avec le mystère du sacerdoce. On comprend très bien. Tous les sacrements sont liés les uns aux autres. Et tous les sacrements sont ordonnés au mystère de l'Eucharistie. Le sacrement de mariage est ordonné au mystère de l'Eucharistie. Comme le baptême. Le baptême nous permet de recevoir l'Eucharistie et il est tout entier ordonné au sacrement de l'Eucharistie. Et le sacrement de mariage est ordonné lui aussi à l'Eucharistie. Ne l'oublions pas. Et c'est pour ça que quand c'est un petit peu plus difficile dans le foyer, il faut que l'époux et l'épouse comprennent que la seule manière de pouvoir être victorieux de telle ou telle difficulté, c'est la communion, c'est l'Eucharistie. Et s'ils peuvent aller communier ensemble pour demander à Jésus d'être là pour leur donner la force dans l'amour, pour dépasser la difficulté, il faut le faire. Le sacrement de mariage est ordonné à l'Eucharistie. Et c'est l'Eucharistie qui donne la force pour être fidèle. Et ça, c'est très important. Si l'Eucharistie n'est pas là, et qu'on fait appel uniquement à la grâce du sacrement de mariage, on oublie que la grâce du sacrement de mariage est liée essentiellement à l'Eucharistie. Des chrétiens mariés et qui ont reçu le sacrement de mariage, doivent être plus chrétiens, c'est-à-dire doivent être davantage ordonnés à l'Eucharistie. Et dans les moments difficiles, on doit se fortifier. Et on se fortifie par l'Eucharistie. Si le sacrement de mariage est ordonné à l'Eucharistie, vous comprenez comment. Le sacrement de mariage ne peut pas ne pas regarder le sacerdoce, puisque l'Eucharistie est essentiellement liée au sacerdoce. Voyez les liens différents entre le mystère de la consécration religieuse et le sacerdoce par rapport à la famille. Ce sont deux liens différents. Et il est important de les souligner pour qu'on comprenne mieux ces deux vocations qui sont deux vocations distinctes. Et Vatican II nous rappelle qu'il faut bien voir la distinction entre ces deux vocations. On pourrait dire, voyez, que le lien avec la vocation religieuse est plus fondamental, et je crois, parce que c'est vraiment l'alliance de l'époux et de l'épouse qui commande ce lien. Et le lien avec le sacrement d'ordre se fait par l'Eucharistie et dans l'Eucharistie. S'il y a ce lien, vous voyez donc un devoir pour les parents, un devoir au sens de l'amour, dans leur éducation chrétienne, d'être ceux qui éveilleront auprès des enfants, dans leur petitesse, dans leur croissance, le devoir d'éveiller chez les enfants ce sens du sacerdoce, ce sens de la vocation religieuse. Il est bien évident que quand on a des parents religieux, quand on a des parents prêtres, et que dans sa plus tendre jeunesse, on a pu aller voir telle tante carmélite, ou telle tante fille de la charité, et qu'on a rencontré tel oncle prêtre, ça joue un rôle extraordinaire d'exemple. L'enfant est très sensible à l'exemple. Et l'exemple joue un rôle capital dans l'éducation. Et si on voit que cette tante ou que cet oncle prêtre est très lié aux parents et que les parents ont pour eux une grande affection et que ce sont eux qu'on voit spécialement dans les moments difficiles et qu'on n'hésite pas du reste de le dire et dans la prière de se rappeler qu'il faut prier pour ceux qui se sont consacrés totalement à Dieu. Ceci éveille dans le cœur de l'enfant une orientation vers quelque chose qui dépasse le foyer, vers quelque chose qui est plus grand que le foyer. Si sain et si beau que soit le foyer, il y a un dépassement. Et on n'hésite pas de le dire, et on n'hésite pas de le montrer, que se donner totalement au Christ, suivre